Seigneur, on va maintenant prendre un temps pour lire ta parole et au-delà des images, au-delà des clichés, on veut te demander que ce soit le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs, qui nous enseigne une leçon pour la nouvelle année, un encouragement, une exhortation qui vienne de toi, parce qu'on te le demande dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Alors, c'est l'histoire de Naaman. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Naaman? Oui, hein? Plusieurs? OK. Fait qu'on va la regarder. Ça va être le fun. C'est du bonbon, du divertissement ce matin. Et il y a des belles leçons. Moi, ça m'a fait du bien. De garder la foi quand les autres ne croient plus en Dieu. On lit le texte, on le commente, et c'est pas plus compliqué que ça. C'est bon?
Oui.
OK. Dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Alors, c'était un pays ennemi. C'était le chef de l'armée du roi de Syrie, donc c'était quelqu'un de très important. Si le pays est ennemi, le chef du roi c'était un ennemi important aussi. Jouissait de la faveur de son maître, c'est-à-dire le roi, et d'une grande considération. Ça veut dire qu'il l'aimait beaucoup. Pourquoi? Ça nous dit ici, car c'était par lui, écoutez bien ça, c'était par lui, Naaman, que l'Éternel avait délivré les Syriens. Est-ce que ça vous soulève une question, ça? Qu'est-ce que l'Éternel avait à faire à aider le chef de l'armée du roi des ennemis d'Israël, hein? Bonne question? Qu'est-ce que l'Éternel faisait à aller aider les ennemis d'Israël? On va continuer, on garde notre question à l'esprit. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il n'y avait peut-être pas pire maladie que ça, là, tu sais, une crise cardiaque, bon, tu meurs, puis ça finit là. Mais lépreux, c'était une maladie à long terme. On ne connaît pas vraiment ça dans nos pays, beaucoup. Mais j'ai mis quelques photos ici pour les enfants. Peut-être c'est pour ceux qui ne sont pas là le matin. C'est une maladie contagieuse. Et puis probablement qu'il n'y avait pas un stage très avancé, OK? Ça, c'était le dos d'une personne qui a la lèpre, là. Tu sais, bon, il y a des bobos. Mais ça se propage, donc c'est très contagieux aussi. C'est une désensibilisation des nerfs. Fait que là, tu touches de quoi, ça ne te fait plus rien, tu ne sens plus rien. Mais là, tu as des blessures, tu ne sens plus rien aussi. Tu ne prends pas soin de toi. Et puis, des fois, tu vois, les doigts se désagrègent, se désintègrent, le nez part. C'est très chic. Tu deviens aveugle aussi. Fait que, alors là, notre ami, le chef de l'armée du roi, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils sortaient, ils se mettaient en gang, puis là, ils allaient attaquer Israël. C'était bien le fun pour eux autres. Et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Alors, c'est triste quand même, tu sais, c'est une petite fille comme ça qui se fait capturer, enlever, et qui devient l'esclave, mais pas l'esclave de n'importe qui, c'était de la femme du chef de l'armée du roi de Syrie. Alors, on la voit là, mais c'est juste des images, mais je pense que c'est bon, moi, ça me fait du bien, tu sais, de réfléchir à ça, de dire, ouais, c'était quand même pas facile. Tu as perdu toute ta famille. Tu es juste une petite fille. Peut-être tes frères se sont fait tuer. Peut-être tu as vu tes frères te faire tuer. Peut-être qu'il y en a des sœurs, des frères qui sont rendus dans d'autres maisons que tu ne connais plus. Ta mère, ton père, tu l'as perdu. Puis là, tu te retrouves à travailler chez les ennemis. C'est pas facile. Et l'attaque aussi devait être assez récente, ça faisait pas 30 ans parce que c'était une petite fille. Puis, donc ça devait pas faire longtemps que c'était arrivé, c'était tout récent, c'était tout chaud. Elle dit à sa maîtresse, donc c'est la femme de Naaman, le chef de l'armée, Aussi mon Seigneur, en parlant de Naaman, était auprès du prophète qui est à Samarie. Si mon Seigneur était auprès du prophète le guérirait de sa lèpre. Pour elle, c'était une certitude. Ben quand même, bravo. Bravo parce que elle se fait du souci pour son Seigneur, son boss, son chef, son Naaman. Et puis aussi, bravo pour sa foi, parce qu'elle a dit, si tu étais là, Samarie, il n'y en aurait pas de problème. Lui, il te guérirait ça tout de suite. Une belle foi vigoureuse. Hein? Et là, on va regarder un petit peu, là, pour les enfants, un peu, de faire un petit historique. De regarder le contexte historique de cette histoire-là. Okay? Si on commence avec... C'est qui? OK, alors, on a David, quand il était un berger. Oui, OK. Vous aimez les graphiques que j'ai mis, mais bon, essayez d'écouter un petit peu l'histoire. Ça commence un petit peu, là, au niveau d'Israël, que ça allait. Il y avait une période où ça allait bien. On avait eu David qui avait combattu Goliath plein de fois et qui était devenu roi d'Israël. Merveilleux. Le pays prospérait, le pays était béni. À cause de la foi de David et parce que le Seigneur aimait Israël. Ensuite, David a eu un fils qui s'appelait Salomon. Salomon qui a eu la tâche de construire le temple de l'Éternel. Merveilleux. Alors, Salomon a fait une belle job, un super de beau temple, majestueux. Et c'était un grand témoignage à la gloire de Dieu. Mais, bon, on voit le temple ici. Vous voyez bien? Ou trop de lumière? Non? C'est bon? Mais Salomon, en devenant vieux et en ayant beaucoup de femmes, de conjointes, s'est mis, son cœur s'est détourné vers d'autres dieux. On le voit ici entouré de certaines de ses femmes et puis apportant des offrandes à d'autres dieux. Et là même, encore d'autres dieux. Et son cœur s'est détourné. Malgré ça allait bien donc à un moment donné, mais là ça s'est mis à vraiment mal aller. Apporter des sacrifices à d'autres dieux. On voit même ici, puis ça dit dans la Bible, que Salomon avait offert des offrandes à Moloch ou Chemosh. Et les offrandes à ce dieu-là, c'était des membres de ta propre descendance, des enfants. Alors, c'était vraiment, vraiment, mais vraiment éloigné de Dieu. Et tout le peuple aussi, une grande partie du peuple s'est éloigné de Dieu. Vraiment, ça allait mal. Le royaume s'était divisé suite à ça. Et dans le nord, où habitait Élisée, où habitait le roi dont on va parler, où avait été Naaman, c'était vraiment très éloigné. Et c'est pour ça, tu sais, garder confiance en Dieu quand plus personne croit, c'était un peu ça le défi. Et je pense que le héros de l'histoire, que, il me semble, c'était cette petite fille-là. D'où c'est qu'elle prenait toute cette confiance-là? Ah, si mon Seigneur était à Samarie, avec le prophète, il le guérirait certainement de sa lèpre. Donc, les gens s'étaient éloignés. Et Dieu, pour punir, corriger, ramener, discipliner les gens, il avait permis, oui, que des ennemis viennent et persécutent Israël, prennent de leur ville, prennent des captifs. Il avait déjà bien averti que c'est ça qui arriverait, si les gens s'éloignaient. Et comme de fait, c'est ça qui arrive, ici, on voit les Syriens, hein, quand on avait lu au début, l'Éternel avait secouru ou aidé, délivré la Syrie par le moyen de ce commandant-là. On voit ici les Syriens qui attaquent les Israélites. Et c'était le Seigneur qui l'avait voulu. Et le chef, c'était notre ami ici, Naaman. On voit, là, c'est en English, mais en haut, c'est t'as Damas. Vous voyez bien? Oui. Et puis en bas, Kingdom of Israel, c'est le royaume d'Israël. On voit Samarie. Et qu'est-ce qui sépare les deux? On avait notre petit fleuve, le Jourdain. Ça va venir dans l'histoire plus tard, justement. Donc, notre commandant, le chef, de l'armée du roi de Syrie, était lépreux. Et là, on reprend notre histoire. Donc, ici, il avait amené une petite fille captive du pays d'Israël. Et là, let's go, on s'en va toute la gang. Et puis, on voit pas vraiment à l'arrière, mais ils mettent la ville en feu, c'est pas grave. On amène nos captifs, on est des gagnants, la vie est belle. Et elle qui lui dit donc cette parole-là, « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui était Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et donc, il y a une leçon, peut-être une première leçon ici. C'est que les justes souffrent aussi. Elle, avec toute sa foi, avait perdu sa famille, ses repères, sa maison. Mais pas sa foi. Elle souffrait. Deuxième leçon, on n'est jamais trop jeune, jamais trop éprouvé pour pouvoir être une influence, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir indiquer, pour pouvoir parler au nom du Seigneur. C'est beau, hein? Elle, malgré toutes ses épreuves, était jamais trop jeune. On n'est jamais trop jeune. Et je trouve ça encourageant pour moi, qui est très jeune. Non? Mais malgré les épreuves, non, ça ne va jamais trop mal. Puis on peut toujours servir de repère, de fort, même quand plus personne croit, ou presque plus personne. Donc, on continue. Et puis, j'ai pris comme deux séries d'images, parce qu'il y avait des notions dans l'histoire que certaines images ne couvraient pas, puis d'autres images couvraient. Mais là, on switch, il prend une différente allure, notre ami Naaman, mais c'est le même gars, OK? Mettez-vous ça dans la tête. C'est le même Naaman ici qu'on voit le chef de l'armée. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est sa femme ici. Puis là, ça nous fait rentrer un petit peu dans l'histoire. Sa femme était bien déprimée de voir son mari lépreux. Parce que quand t'es lépreux, on sait où ça mène, hein? Ça mène à une vie de souffrance, ça va aller de pire en pire. J'aurais pu vous montrer des photos, mais c'était dégueulasse, là, de lépreux. Puis comment ça finit? Bien, ça finit en mourant. Tu meurs plus vite que tu serais mort, mais plein de souffrance. Isolé, c'est sûr, parce que personne ne veut attraper ta maladie. Comme personne ne voulait me donner la main ce matin. Tu sais, quand tu es malade, mais personne ne veut attraper ça. Fait que Madame Naaman était sa déprime. Elle trouvait ça vraiment difficile. Et puis, ici, on voit la fille, elle a l'air un petit peu plus vieille, là, mais c'est la même histoire, OK? Donc, la petite fille, là, ils l'ont faite peut-être, mettons, 13 ans. Ça se pourrait, 14 ans. Et puis, qui va dire encore le message d'espoir pour à sa maîtresse qui est déprimée. « Ah, si mon maître était à Samarie! Si mon maître était à Samarie, certainement il le guérirait de sa lèpre. » Et puis là, ça l'a touché, cette foi-là, une foi forte, sans la moindre doute. Moi, je le sais. C'était Samarie, là où les prophètes certainement guériraient de sa lèpre. Et ça l'a touché son cœur. Et des fois, on ne sait pas là, à qui, des fois, les plus improbables des convertis. Tu sais, tu parles, tu es dans la famille du chef de l'armée du roi de Syrie. Voyons donc comme si ça va se convertir. Mais oui, mais les plus improbables, des fois, la parole de Dieu touche son cœur. Donc, c'est un espoir de dire, parle, ouvre la bouche, témoigne, ça va mal. T'es jeune, t'as perdu ta famille, témoigne. Parle du Sauveur. Et là, ça touche son cœur. Puis, des fois, on ne sait pas, tu sais, pourquoi Dieu permet, tu sais, tu as vu les photos? Pourquoi qu'il te permet la lèpre? Dieu. Si t'étais Dieu, tout à fait bon, t'enlèverais la lèpre du monde. C'est moi une question, elle est difficile. Si t'étais tout puissant, tu pourrais, toi? Je ne sais pas toutes ces bonnes questions-là, mais une chose est certaine, c'est que la madame ici et Naaman ne se seraient jamais tournés vers le prophète de Samarie si ça n'avait pas été de cette souffrance-là. Et des fois, la souffrance, c'est ce qui nous conduit au Seigneur, si on écoute son message. C'est fait comme pour nous amener tranquillement, gentiment. Des fois, difficilement, mais nous conduire au Seigneur. Fait qu'elle, dans sa déprime, elle entend ce message-là, et puis là, elle dit, « Naaman, mon chéri, viens-nous ici une minute. » Et puis, on voyait un peu, lui aussi, sa déprime, peut-être, qui dit, « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Fait qu'elle raconte ça, cette histoire-là. C'est pas qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit que certainement, elle guérirait de sa lèpre. Ah, ouais. Et là, ça fait son chemin. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ouais. Ma vie, qu'est-ce qu'est ma vie? Si je continue de même, je vais tout perdre. Puis là, ça fait son chemin. Fait qu'il va voir son boss, le roi de Syrie. Puis il raconte ça. On lit, Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Mais va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Pas de problème. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, c'est une fortune, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Ben, tu sais, c'était des vêtements de fête, là. C'était des beaux vêtements. C'est sûr qu'il y avait quelque chose d'embarrassant là-dedans d'aller demander une faveur au loser. Tu sais, t'es le grand victorieux, t'es le chef de l'armée du roi de Syrie. J'aurais besoin d'une petite faveur. C'est gênant un petit peu. Et on voit aussi la mentalité ici, le roi commande aux guérisseurs. Tu sais, dans son pays, c'était tout comme des sorciers ou des enfants de même, la sorcellerie ou la magie. Mais comment ça marchait? C'est que quand tu veux quelque chose, tu commandes, puis ils vont te le faire. Mais ça ne marchait pas tout à fait comme ça, avec le vrai Dieu. Mais ça nous laisse voir. En tout cas, il fait tout son trésor. Let's go. On charge ça, on envoie une bonne équipe avec notre bien-aimé Naaman. Puis là, tu vois, là, let's go, le gars. On en met, OK? Et puis, donc, on est plein d'espoir, on n'a rien à perdre. Salut Naaman, tu reviendras bientôt, j'espère, passe un beau voyage. Le roi même l'aimait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de considération pour lui. Et puis, notre ami Naaman arrive à Samarie pour aller voir le roi, parce qu'il pense que le roi, lui, gère tout ça. Il dit, voici, Samarie, on approche, et il va voir le roi. Et là, on voit le gros gaillard qui est là, qui donne la lettre au roi, et Naaman qui est à côté, puis qui attend. OK? Ben, le client paye, on va attendre les services. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Pas compliqué. En tout cas, c'était clair. OK. Fait que là, lui, notre ami le roi, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Scandalisé, fâché, quand tu savais plus quoi faire, tu déchirais tes vêtements. Quand ça allait vraiment mal, c'était la chose à faire. Bon, on connaît pas ça comme habitude, mais on peut se mettre dans l'idée là, que ça allait mal pour lui, là, les fils se touchaient. Okay? Déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que quand tu étais lépreux, tu allais mourir. Pour faire vivre, je ne peux pas faire vivre, moi. Suis-je Dieu? Puisqu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre, voyons donc. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Il cherche la chicane. C'est pour ça qu'il fait ça. Pas capable de faire ça, moi, guérir quelqu'un de la lèpre. Et notre roi, justement, La petite fille savait qu'il y avait un prophète à Samarie, dans la même ville. Le roi ne pense pas à ça, lui. Ça y passe par-dessus la tête, pour penser. Mais lorsqu'Élisée, homme de Dieu, alors c'était lui le prophète en question, c'était Élisée. Homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Voyons donc ce qui se passe. Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Toi, ça a l'air que ça ne veut pas rentrer, tu ne veux pas le savoir qu'il y en a un prophète en Israël, mais lui, Naaman, va le savoir, par expérience. Il y a comme un jugement là-dedans. Toi, tu aurais dû savoir. La petite fille le savait. Mais toi, tu ne veux pas savoir. Mais check bien, lui, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc, Naaman et sa troupe quittent le roi et vont vers Élisée. Élisée, le prophète. Et ils arrivent à sa petite maison. Il a peut-être mis ça sur son GPS. Ils arrivent à la maison. Pas de rue, pas d'adresse, petite bicoque avec un rideau. Fait que là, les chevaux, ça hennit. Tu sais, il veut dire, la visite se fait sentir, puis tout ça, rien. Pas de nouvelles. Allô? On attend. Y a-tu quelqu'un? Élisée est à l'intérieur. Il se tourne devant Dieu. Dieu qui lui avait révélé que le roi avait déchiré ses habits, puis qu'il y avait Naaman. Dieu qui connaissait Naaman. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi sept fois dans le Jourdain. » Ça, c'était la petite rivière, plus petit que la rivière Saint-Maurice, là, petite affaire. Peut-être le quart, le cinquième de la rivière Saint-Maurice. « Lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman l'avait traversé le Jourdain, il savait c'était quoi, là, puis c'était comme un... C'était boiteux, c'était pas que tu sortiras propre et pur, c'était pas évident. Mais là, il dit, « Va, lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Puis là, Naaman, ça n'a pas fait son affaire. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Moi, là, tu sais, je m'attendais à un show, quelque chose, tu sais, d'en avoir pour mon argent. C'était comme un consommateur averti qui dit, non, au prix que je paye, là, j'aimerais ça que le gars il sorte puis qu'il me rencontre, hein, puis un service personnalisé. Non, c'est quoi cette affaire-là? Son serviteur vient, puis il s'en va faire de tremper cette fois dans cette petite rivière boiteuse-là? Non, il n'était pas content. Fait, c'est ça, il voulait un vrai show. Mais là, un simple bain. Là, tu veux dire que tu penses que je n'ai pas pris mon bain? Si là, bien, cette fois, ça, tu penses que ça va marcher de même? Et puis là, il y avait comme un processus. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi est-ce qu'Élisée t'es en train d'insulter? Hein? C'est une insulte. C'est un bon client, pourtant, il avait bien de l'argent. S'il voulait du repeat business, il fallait prendre attention, prendre soin de ses clients. Pourquoi qu'il disait qu'il traite le monde de même? Là, c'est comme s'il minimisait son problème. C'est ça, attends, allez me tremper cette fois, ça va tout arranger. Voyons. C'était comme choquant. Il continue, Naaman, il dit les fleuves de Damas. Parce que le mont Hermon, tu sais, ça coulait vers le Jourdain, puis ça coulait aussi vers Damas. Et puis là, apparemment, tu avais une eau cristalline dans l'Abana et le Parpar. Là, ça, c'était de l'eau propre. Pas comme le Jourdain. Le Jourdain, ça sortait clean, mais tu sais, la vase, puis tout ça, ça donnait. Ça devenait boiteux, mais là-bas, ça restait propre. L'Abana et le parpaing ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ça n'a pas d'allure. Puis des fois, on dirait que le Seigneur, c'est comme ça aussi. Ça défie notre raison humaine. Ça n'a pas d'allure, puis c'est humiliant en plus de ça. Penses-tu que je vais aller faire ça dans son petit trou, dans son trou de boîte? Moi, le commandant de l'armée du roi de Syrie, là, je t'ai insulté. Puis il prenait ça à cœur. Il était vexé, blessé. Il s'en retournait et partait avec fureur, piqué dans son orgueil. Fait que pourquoi cette insulte? Il y avait quelque chose à apprendre. L'humilité devant Dieu. C'est pas vrai que tu viens devant Dieu avec tes trésors, puis ton argent, puis tu vas commander. C'est pas comme ça que ça marche. Puis vous souvenez l'histoire de la porte étroite? Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Faut que tu renonces à plein d'affaires. À toi-même, à ton orgueil. Et toi, le grand commandant de l'armée de Syrie, tu devais prendre contact avec ta propre misère devant Dieu. Écoute, mon homme, tu es lépreux. Tu vas mourir. Que tu sois même lépreux ou non, tu vas mourir. Tu es séparé de Dieu. Prends ta place devant Dieu. Ça, c'était dur à apprendre. C'est pas facile d'obéir. Ça passait dur. C'est pour ça que ça dit, tu sais, il n'y en a pas parmi vous beaucoup qui sont nobles. Tu sais, des grands, éduqués, puis tout ça. Souvent, c'est des gens normaux pour qui c'est comme évident que c'est vrai que devant Dieu, je fais dur. Mais les autres sont comme facilement, nous autres, les autres, les Québécois, facilement aveuglés, on pense qu'on est correct devant Dieu. Tu vois, ouais, quand je vais le rencontrer, Dieu, je vais y parler, moi, je vais y dire. Pourquoi en poser des questions, là, au bonhomme en haut? Oh boy! C'est parce que ça ne se passera pas de même. Fait que, il y avait des choses à apprendre. Et puis, Élisée, c'est comme s'il fait tout pour enlever des obstacles. C'est sûr qu'il aurait voulu, probablement, humainement parlant, aller se présenter, aller encourager. « Hey, maman, je suis content que tu viennes me voir, puis c'est bien, puis tout ça. » Non, mais il voulait, c'était la leçon. Il fallait que la leçon passe. Il envoie son serviteur, il oublie, c'est au Seigneur. Puis le Seigneur dit non, il faut qu'il apprenne ça, il faut qu'il passe par là. Fait qu'en tout cas, il est piqué à vif. Et là, ses amis, ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et dire, « Non, non, ne fais pas de gaffe. On n'est pas venu ici pour rien. Écoute, ce qu'il te demande, c'est quand même pas la mer à boire. Fais-les, puis essaye-les au moins, Naaman. Mon père, ça parle d'intimité, mais ça parle aussi de soumission. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait, puis t'aurais été fier de toi? Mais là, regarde, combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, tu seras pur. Fais confiance, t'es rendu là, Naaman. Qu'est-ce que t'as à peine? » Fait qu'il raisonne un petit peu. Puis là, ça a dû être dur. Mais tu vois, c'est un gars qui semblait... puis il devait, tu sais, c'est pas parce que l'image fait comme ça, mais que, tu sais, réfléchit un peu. Il écoutait sa femme, il écoutait la petite fille. Là, il écoute ses amis. Ouais, OK, c'est beau. Puis là, il passe, il ravale, il passe par-dessus. Et puis là, on le voit ici. C'est ça, l'obéissance, c'est pas facile, c'est humiliant des fois. Fait qu'il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Fait qu'on le voit ici en bobette, sur le bord de l'eau. Assez humiliant, merci. Et puis, tout le monde qui regarde, bien sûr. Et puis, là, qui... ouais, une fois. rien. Deux fois, rien. Trois fois, rien. Quatre fois, tout le monde regarde, rien. Cinq fois, rien. Six fois, rien. Sept fois, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. On le voit sortir ici, mais voyons donc. Mais là, au-delà de la lèpre, c'est comme de se dire, mais voyons donc. Le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, nos ennemis, a pensé à moi, Naaman, pour me guérir de ma lèpre. Au-delà de sa guérison, là, puis que sa femme qui devait être heureuse, puis tout ça, il a comme catché, t'as une minute là, le Dieu d'Israël, il m'aime aussi. Un lépreux, un ennemi. C'est juste de se dire. Tu sais, souvent, puis même peut-être pour les enfants, on est dans une famille chrétienne, puis on prend ça pour acquis. La belle histoire de Jésus. Mais c'est notre histoire, ça. Par nature, on était des ennemis de Dieu. D'un autre clan, d'un autre groupe, des ennemis dans nos péchés et par nos pensées. Lépreux, ça comme représente le péché aussi, qui contamine, on ne peut pas s'en débarrasser, inguérissable. Et là, qui était rendu pur, et que Jésus, Dieu peut encore purifier, de venir à lui. Puis c'est beau, Naaman, t'sais, un gars, peut-être les plus éloignés de Dieu, du vrai Dieu d'Israël, que Dieu l'amène. On peut tous venir à Jésus. On peut tous trouver le pardon. On peut tous être réconciliés. Le même amour est là pour nous tous. Fait qu'il y a une comparaison avec le pardon en Jésus. Et puis c'est intéressant de voir que Jésus parle de cette histoire-là, de Naaman. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que Jésus avait à dire de Naaman? Intéressant, Jésus, puis pour parler. Donc, il disait, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Mais on va lire l'histoire, OK, juste pour le fun. C'est ça, tu sais, les plus éloignés des fois qui croient. Et toi, si tu te sens éloigné ce matin, tu peux croire, tu peux venir, tu peux faire confiance. Tu peux être guéri de tes péchés, pardonné. Lisons l'histoire, OK? C'est Jésus qui se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Puis Naaman, c'était un peu comme ça, le cœur brisé. C'était un pauvre, démuni, lépreux, malgré toute sa gloire, là, dans le fond. Là. Donc, c'est ça. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et pareillement pour nous, captifs de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, de nos dépendances, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Fait que Jésus, il dit ça dans la synagogue. Ensuite, il roula le livre. OK, on remet ça. Le remit au serviteur et ceci. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, Jésus. Alors il commença à leur dire, Jésus leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est libérer les captifs, les aveugles, et puis ceux qui ont le cœur brisé, la bonne nouvelle aux pauvres, cette bonne nouvelle-là est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, mais là, n'est-ce pas le fils de Joseph? On le connaît. Là, j'ai sauté un petit bout, tu sais, ses sœurs, ses frères, puis tout ça, voyons. Pour qui se prend? Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et c'est là qu'il va parler de nos deux amis. Et puis c'est ça, il y a la question du mépris du familier, un excès de familiarité. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. De toutes les veuves d'Israël, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il ne croyait plus. Puis l'a envoyé vers, ce n'est que vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Puis on voyait qu'elle croyait, elle. Il disait, va me préparer des petits pains. Ah, ben là, écoute, j'ai pas grand-chose. Il me reste un petit peu d'huile puis de farine, puis je vais faire ça, un gâteau, puis je vais mourir. Puis là, Élie, il dit, ah, oh, mais prépare-en d'abord pour moi. Et ça prenait de la foi pas mal. Ben, elle l'a fait. Et finalement, sa vie a été sauvée. On passe par-dessus parce que là, on rentrera pas dans une autre histoire. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et pourquoi? Parce que la petite fille a parlé. La petite fille, elle croyait, elle. Les autres, dans tout Israël, je pense que s'ils avaient cru, certainement que Élisée aurait voulu. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Donc, en tout cas, ici, on parle en tout cas d'une belle foi. Quand personne croit. C'est sûr qu'il y a eu des doutes dans la main, mais il est venu. Puis des fois, peut-être que tu as plein de doutes. Viens pareil. Avec tes questions, tes problèmes, puis tout ça, viens pareil à Jésus. Au moins, Naaman, il est venu. Est-ce qu'il y en avait des problèmes, puis des doutes, puis plein de fureur, puis tout ça? Oui. Mais le Seigneur l'a guidé. Viens quand même à Jésus. Là, on prend un petit peu l'histoire de Naaman avec l'autre personnage, parce qu'il y avait une bonne partie de l'histoire que je voulais raconter par ce Naaman-là, OK? Vous reconnaissez, vous n'êtes pas trop mélangé? On le voit, il est plein de fureur. Ça n'a pas d'allure, puis comme ça, la banane, elle a par part, tu sais. Jamais de la vie, je vais m'humilier dans ce trou de boîte-là. Là, ses amis qui y parlent, voyons mon père, tu sais, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, qu'il va se baigner une fois, deux fois, trois fois, bon, et ainsi de suite, jusqu'à temps d'être pur. Et dans la suite de l'histoire, il retourne, c'est comme je disais, hein, c'était plus que la lèpre, parce que là, il sera retourné chez eux, où il aurait envoyé ses serviteurs, donner un cadeau, payer quelqu'un. Mais c'était ce Dieu-là qui avait touché son cœur. C'est ça qui est beau aussi. Et là, il voulait connecter avec ce prophète-là. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. OK, là, on se parle, OK? Il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Pour lui, OK, il y avait une compréhension falsifié, erroné. Pour lui, c'est un Dieu géographique. Le Dieu de la terre d'Israël, c'est le bon Dieu. Le Dieu des autres, bon, pas grave, c'est comme ça qu'il voyait ça. Mais on comprend l'idée, hein? C'est une conversion. Il dit, c'est ce Dieu-là que je veux qu'il soit mon Dieu. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Puis on le voit ici, « Oh non, 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 merci, non, merci. » « Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, « Ben voyons donc, ça va me faire plaisir, prends un petit peu, tu sais, prends quelque chose quand même, tu sais. C'est tellement important pour moi, ça a changé ma vie, écoute, c'est vraiment, non, non, vraiment. » Mais il refusa. Pourquoi vous pensez qu'il refuse? Quand même, l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi qu'il refuse? Il était juste l'intermédiaire entre lui et Dieu, puis il n'avait pas à se remplir les poches avec ça. C'est ça? La gloire soit à Dieu seulement et pas à Élisée. Mais un petit peu quand même, tu sais, il faut vivre, il faut payer nos factures, électricité, Internet. Je trouve ça intéressant, pourquoi qu'il n'accepte pas à rien? Il aurait pu être économe. Bon, tu sais, écoute, ton gros trésor, peut-être pas tout, mais deux, trois, puis un habit ou deux, ça a l'air, ils ont l'air à la mode pas mal, puis je pense que ça me ferait du bien. Mais il n'accepte pas rien du tout. C'est ça, c'est comme si, encore là, il mettait tout pour enlever des obstacles pour Naaman. Écoute, Naaman, la grâce, là, c'est gratuit. Tu ne payes rien. La grâce, c'est facile. Trop facile. Un bain, cette fois. Juste ça. Dieu va tout faire. Tu n'as pas besoin de te forcer. Naaman, il faut que tu t'humilies. J'envoie mon serviteur. Fait qu'Élisée ne voulait pas mettre aucun obstacle. Aucune considération d'argent, de gain d'intérêt, de conflit d'intérêt, puis tout ça. À rien. Le prophète du Dieu de la grâce est comparativement aux sorciers païens ou aux guérisseurs païens qui acceptaient toujours de la paye. Non, je veux que tu comprennes que c'est différent. Comme tu disais, Louise, le grand Dieu, tu ne peux pas acheter la grâce, tu ne peux pas payer pour ça, tu ne monnaies pas, tu ne contrôles pas Dieu avec ton argent. Puis si tu n'en as pas, pauvre toi, tant pis pour toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Fait qu'il voulait donner une histoire, une image de Dieu, projeter une image de Dieu qui soit pure, propre. Et là, l'histoire continue. On va la lire quand même parce qu'on est des grands, il n'y a pas beaucoup d'enfants. On aurait peut-être passé par-dessus, mais... Alors, Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre. » Mais là, ça ressemble à... C'est encore son idée là, d'un Dieu géographique. Un Dieu de cette terre-là d'Israël, qu'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, et n'en offrira qu'à l'Éternel. Fait qu'il ferait un petit autel sur la terre, puis pour lui, ce serait comme au Dieu d'Israël. Bon. Et puis là, on voit, là, tu sais, Élisée, veut dire, il veut pas le couper les cheveux en quatre ou achaler le nouveau converti. C'est comme « whatever », tu sais, « va en paix ». Il ne dit pas que c'est correct, mais il dit « va juste, va en paix ». Ça continue, verset 18. « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, c'était le dieu syrien, quand il rentre dans cette maison-là, et qu'il s'appuie sur ma main. » Tu sais, fait que tu imagines le vieux roi, puis il s'appuie sur la main du commandant, du chef de l'armée, du roi de Syrie, ça paraît bien. Mais je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Écoute, c'est un rituel, mon cœur n'est pas attaché à ça. Si tu correct. Tu sais, on voyait qu'il n'y avait pas la force, comme nouveau converti, de prendre position. Non, c'est fini. Puis tout ça. Quoique, c'est sûr que ça allait lui apporter des problèmes. Quand quelqu'un dans le pays n'adore pas les divinités du pays, ça peut apporter des malchances. Là, il se tourne vers ceux qui ne sont pas croyants. C'est à cause de toi que les malheurs nous arrivent. Fait que c'est sûr que Naaman aurait eu des problèmes. Il avait déjà amplement pris position. Mais Élisée, il ne coupe pas les cheveux en quatre, comme je disais. Il dit, le Seigneur va s'occuper de toi, va en paix. Okay? Là, on continue notre histoire. Et c'est là qu'il y avait un petit côté qui peut nous parler. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, fait qu'on avait un spectateur là ici, Géasi. Là, si je reviens un petit peu, là, tu vois ici comment il était surpris, Géasi. Quoi? Tu sais, il était en train de dire non. Quoi? Lui était surpris, son serviteur Géasi. Tu prends rien, c'est pas vrai. Et puis, fait que là, quand Naaman a quitté Élisée, il était à une bonne distance, comme ça Élisée, il ne saurait rien. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, hey, le chef de l'armée du roi de Syrie. Tu vois, ouais, moi, je vais m'en occuper de lui. » Puis c'est pas vrai qu'un ennemi comme ça va s'en aller chez eux sans avoir payé rien pour une faveur majeure de même. Non. Et puis, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Oh boy! On voit, il y avait tout le langage, mais zéro attitude de cœur. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Ça fait penser à Judas. Tu sais, Judas était bien connecté avec Jésus, comme lui avec Élisée. Mais le cœur n'était pas à la bonne place, le cœur était au guet. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char. « Hein, qu'est-ce qui se passe? Tout est correct? » Il n'est pas resté sur son char, si tu veux. Non, il descend, puis la considération envers, « Hey, y a-tu quelque chose qui se passe? » Pour aller à sa rencontre, il dit, « Tout va-t-il bien? » Il répondit, Géasi, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, « Voici, il vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent ou deux vêtements de rechange et deux vêtements de rechange. » Naaman, tu consens à prendre deux talents, pas juste un, prends-en deux, ils sont deux. Et le pressa, il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. C'était pesant quand même. Deux sacs de deux talents d'argent, puis les manteaux, puis tout ça. Mes serviteurs vont t'aider. Arrivé à la colline, tout proche, Géasi se tourne vers les autres. Ils disent, les prix de leurs mains. Eh non, chou, vous en allez. Merci beaucoup. C'est correct. Pas besoin d'aide. On est tout proche. On est arrivé. Il les déposa dans la maison. Il faut croire dans sa maison à lui. Il envoya ses gens qui partirent. C'est beau, bye-bye. Il ne voulait pas aussi qu'il allait dans une autre maison porter l'argent. Fait que c'était pratique là, de dire, allez-vous-en. Non, merci, vous êtes bien aimable. Et puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Gros problème. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Quand il est descendu, là, pour te dire, « Est-ce que tout va bien? » Mon esprit n'était pas absent. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Parce qu'avec l'argent, c'est ça qu'il avait en tête, d'acheter. Est-ce le temps de prendre? Pourquoi c'était pas le temps? Y aurait-tu eu un temps pour prendre? Puis là, c'était pas le temps. Comment ça se fait que c'était pas le temps? D'hésiter quelqu'un? C'était pas le temps de Dieu. Pourquoi, justement? Pourquoi c'était pas le temps? Ouais, mais y aurait-tu un bon temps qu'on pourrait prendre de l'argent? Comme ça, est-ce le temps de prendre? Oui, c'est sûr. Ça défait l'image de la grâce de Dieu puis tout ça que Élisée projetait en n'acceptant rien. Mais je trouvais que c'était une bonne question. Est-ce le temps de prendre? Et puis, je vous propose, tu sais, comme, pensez-y, là, pensons-y. On est en Israël, le pays où vivait David, le pays de la terre promise, toutes les choses de Dieu, puis les gens s'étaient détournés, avait abandonné même au point qu'il ne savait même plus qu'il y avait un prophète à Samarie. Là, ça va mal. Ça va mal. Géasi, où est-ce qu'est ton cœur, coudon? Comment ça se fait? Tu ne te soucies pas là, pour tous ces gens-là. Les Israélites, ils se font persécuter, manger tout rond par les Syriens. Ils sont loin de Dieu. Ils ont abandonné la foi. Puis toi, tu penses à ta poche ton portefeuille? Voyons donc, Géasi. C'est-tu le temps de penser à ça? Voyez un peu, là, il y aurait eu quelque chose qui le choque, Géasi, plus que le fait qu'une bonne occasion a passé sous son nez. Il y avait quelque chose qui aurait dû le choquer, c'est de voir la détresse du peuple, la perdition du peuple, sans espoir, qui avait abandonné la source d'eau vive pour s'attacher à des citernes crevassées. C'est ça, là, Géasi, qui aurait dû habiter ton cœur. Pas 2 talents d'argent. C'est quoi, cette affaire-là? Et là, de se poser la question, est-ce que je cherche à prendre ou à donner? C'est face à l'Église, mon implication. Est-ce que je suis un consommateur qui prend? Ah oui, c'est gratuit? OK, oui, merci. Ou qui veut donner? Pas parce que j'ai, il faut que je donne encore. Non, parce qu'il y a tellement des besoins, il y a tellement une détresse, il y a tellement un manque d'espoir que j'ai besoin de donner. Ça me fait tellement plaisir de donner aussi. J'honore mon Sauveur après tout ce qu'il a fait pour moi. Ça ne me coûte rien. Non, ça me fait plaisir de donner. C'est le fun. C'est-tu cette attitude-là ou juste de, mais je pense à moi, puis je vais peut-être partir en... en vacances, peut-être. Peut-être changer de char, ou je ne sais pas. Mais c'est le fun, la vie. Moi, il me semble que ça va bien, je suis en santé. Là, je suis tout, je suis à la retraite, hein. Plein de boomers dans notre église. M'excusez. Je ne vais pas rendre personne, coupable. C'est juste d'aspirer peut-être ou un et l'autre, mettons. De la joie de donner. Et puis Géasi, c'est comme s'il avait pas la tête à ça. Il avait qu'est-ce que je peux prendre? Puis calculateur, habile, rusé, un bandit, là. J'ai compris, j'ai vu, les autres n'ont pas vu. Non! Verset 27, « La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » C'est vert, hein? C'est comme ce péché-là. Puis nos décisions qui nuisent, qui font du mal à notre descendance, à notre postérité aussi. On vit dans l'Église, peut-être, près de Dieu, mais notre cœur s'est éloigné, on est calculateur, on veut profiter. Mais ce péché-là, il va détourner, en tout cas, il va apporter un paquet de problèmes. Géasi sorti de la présence d'Élisée. Avec une lèpre comme la neige. Bon, est-ce que c'est une bonne application? Est-ce le temps de prendre? Il me semble qu'au moins la question se pose. Puis je trouvais ça beau, beau. Ça venait de William Booth, qui avait le cœur blessé face à tous les besoins, puis de voir l'indifférence du peuple de Dieu. Et là, on voit peut-être pas bien, hein. C'est le rocher. On a le Sauveur, le rocher, avec un quai, un abri sur un refuge, sur un rocher. Et puis, c'est comme les chrétiens, ceux qui sont sauvés, et qui sont occupés par plein de différentes choses. Est-ce que c'est moi qui cache, là? Et puis, il y en a ici, sur une chaloupe, qui sont à l'extérieur, puis ils essaient, parce qu'il y en a des gens qui se noient. Il y a quand même tempête, éclair, orage. Et puis, il y en a qui sont préoccupés par les gens qui se noient. Et puis là, je l'ai mis un petit peu comme j'ai pris cette partie-là à gauche, OK? Fait que là, on voit, là, « Hey, venez aider ici! » Lui, il est assis là, puis il est bien occupé, il est en train de pêcher, OK? Complètement déconnecté par la tragédie qui se passe, là. « Allez! » Tu sais, là, qui a de la difficulté, là, puis lui, il pêche. Elle regarde l'orage, c'est beau. Et puis ici, lui, ils font des affaires. Oh, tombe en amour. Là, on jase avec des amis, lui, tout téléphone. Elle trouve ça tellement beau, la scène, qu'elle en fait une peinture. Et puis lui, avec son boombox, fait que c'est toutes des choses, c'est pas des péchés, là. Mais des préoccupations légitimes. Puis de l'autre côté, là, ils s'occupent d'eux autres, tu sais, ils prennent soin d'eux autres, à bien manger. Non, non, ben, moi, je me garde en santé. C'est bon pour moi. Et puis, la bonne musique, musique chrétienne, c'est sûr. La bonne musique, le sport, tu sais, c'est bon pour la santé, de prendre soin de la machine que Dieu nous a donnée. C'est bien. Puis lui ici, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas rien, il n'y a pas de bateau, mais tu sais, il est là, il tend la main, puis peut-être qu'il va en ramasser un. Lui, il y a un outil, il y a de quoi, là, il envoie la bouée de sauvetage. Fait que quelques-uns sont préoccupés par la tragédie qui se passe à côté. C'est comme si on pourrait dire, est-ce le temps, ici, là, de s'occuper de tout ça, là, de toute la vie, puis de courir après des choses le fun, là, mais attends une minute, il y a une crise qui se passe. Il y a une foule qui s'en va sans espoir, sans espérance. Puis c'est ça qui m'allume. Puis c'est comme le Seigneur, tu sais, de ne pas arrêter jusqu'à temps qu'il dise, « OK, c'est assez, toi, rentre à la maison. » Puis qu'il nous ramène, qu'il nous rappelle à lui. De continuer d'appeler. C'est-tu un trip de culpabilité? J'espère que non. Mais c'est vrai que ça peut l'être. Mais on peut aussi s'humilier, de dire, de s'examiner. L'année commence. Où est-ce qu'est mon cœur? Je suis attaché à quoi? Est-ce que je suis en train de prendre? Est-ce le temps de prendre? Ou comme Naaman, tu étais loin, mais tu peux venir à Jésus. J'aimerais qu'on prie, puis d'inviter, et que chacun de nous puisse prier pour ceux qui sont parmi nous et qui n'ont pas fait le pas de venir à Jésus, de recevoir le pardon. On prie. Priez pour les gens. Puis moi, je t'encourage, si tu es indécis comme Naaman, prie dans ton cœur. Dis-le, c'est vrai, moi, je suis comme un lépreux, je suis dépourvu, je suis sans Dieu. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de la bonne nouvelle pour les pauvres. J'en ai besoin. Et dis-le à Dieu. Dis-le, Seigneur, tu as envoyé Jésus pour être le pardon des péchés. Je ne comprends pas tout comment ça marche, mais j'en ai besoin. Rentre dans mon cœur. Rentre dans ma vie. Je vais tout perdre bientôt. La mort nous attend. Mais je veux venir à toi. Sauve-moi, purifie-moi comme Naaman. Dis ça à Dieu, il va t'entendre. Et remercie-le parce que Jésus est mort, a payé ta pénalité. Remercie-le pour l'amour qu'il y a eu envers Naaman, mais il y a même amour envers toi ce matin. Ouvre ton cœur. Seigneur, on te prie pour ceux qui sont ici, qui ne t'appartiennent pas encore. Seigneur, on intercède pour eux, que tu puisses leur donner de venir à Jésus et d'être guéri. Amen.